émission spéciale SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous y sommes, une émission spéciale, une opération spéciale pour vous parler du salon immobilier bien bas carbone qui va se tenir dans quelques jours à Paris. On va en parler maintenant parce que le sujet, bien évidemment, est un sujet majeur, est un sujet qui touche tous les Français. C'est bien l'objet de notre émission. Au sommaire, nous allons évoquer, bien évidemment, cette seconde édition du SIPCA, le salon immobilier bas carbone, qui va se tenir au Palais Éphémère, avec nos invités ici présents. J'ai le plaisir d'accueillir Ferriel De Riche, la directrice du SIPCA. Bonjour Ferriel.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très très bien. On ouvre, voilà, le salon ouvre ses portes dans quelques jours. On vous réserve plein de belles surprises.
Voilà, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là parce que le sujet est important et le SIPCA s'est installé en un temps record comme étant le rendez-vous incontournable pour la rénovation énergétique des bâtiments. On en parlera tout à l'heure. Vous avez souhaité d'ailleurs, Ferriel, lorsqu'on a préparé cette émission, réunir tous les protagonistes de cette opération, je le rappelle, qui va se tenir au Palais Éphémère. J'ai le plaisir, elle est en duplex avec nous, d'avoir Hélène Génin au téléphone. Bonjour Hélène.
Bonjour Sylvain.
Hélène, vous êtes la déléguée générale de l'association Bâtiment Bas Carbone.
Absolument.
Et donc, c'est vous qui êtes chargée d'évangéliser les foules sur la nécessité, l'impérieuse nécessité de la transformation énergétique des bâtiments en général. On est ravis que vous soyez avec nous. Vous allez pouvoir nous éclairer, bien évidemment. J'ai le plaisir également d'accueillir sur le plateau Céline Crestin. Bonjour Céline.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes la directrice de la stratégie et du développement durable à Paris de la Défense.
Absolument.
Vous allez nous donner aussi votre point de vue sur cette impérieuse nécessité de transformation énergétique qui nous touche tous. On l'a vu d'ailleurs cet été, bien évidemment. C'est plus un débat, hein, la transformation énergétique et les problématiques de climat. Les bâtiments, comme vous le savez, sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. On est sur une trajectoire de neutralité carbone. Pour en parler également, un professionnel qui a créé une entreprise hors norme, qui aujourd'hui connaît un succès considérable. Il est le patron fondateur d'Axenta, c'est Pierre Trémolière.
Bonjour,
Pierre.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Pierre ?
Impeccable, très heureux de commencer le deuxième SIPCA auquel participe Axenta.
On est ravis que vous soyez avec nous. On va tâcher, si vous le voulez bien, de donner à ceux qui nous écoutent, à vous qui nous écoutez, les clés de lisibilité. D'abord, pour venir au SIPCA, vous allez voir, c'est un rendez-vous extraordinaire où vous allez voir beaucoup d'innovations autour des problématiques de climat, de transformation énergétique. On va en parler, bien évidemment. C'est dans le sommaire de l'émission. À tout de suite.
Émission spéciale SIPCA sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous. Et bien évidemment, on va parler justement et rappeler quelques éléments chronologiques, historiques qui ont présidé à la création du salon immobilier bas carbone. Dans un premier temps, Ferriel, justement, comment est né le SIPCA ?
La genèse du SIPCA, comment est né le SIPCA ? L'idée, elle revient à l'association BBCA, l'association Bâtiment Bas Carbone, comme une évidence, et ce que vous expliquera Hélène, voilà, de par la légitimité de cette association, les labels, leur connaissance. Voilà, l'idée de réunir tous les acteurs engagés qui concrètement proposent des solutions ou en tout cas mettent en avant des réalisations exemplaires. Une rencontre aussi, la rencontre entre l'association BBCA et un organisateur de salons et d'événements qui est France Convention. Et tous deux m'ayant confié cette mission de lancer le SIPCA. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une réussite, une surprise et à la fois un événement tellement attendu, mais une surprise dans son succès. On a lancé cet événement, ce salon, en 7 mois et il a pris une place prépondérante. Tout le monde était au rendez-vous. Je laisse à César, ce qui est à César en tout cas, l'idée revient à l'association BBCA. Hélène vous en dira certainement plus à ce sujet.
En tout cas, je peux vous dire que sur Radio Immo et Web Radio, on gère à peu près 150 événements et on a rarement vu, et pour vous le dire, c'est la première fois que je vois un événement qui a marqué aussi durablement l'ensemble à la fois des classes d'actifs dans l'immobilier, mais aussi les protagonistes. Il y avait toute la classe immobilière l'an dernier. C'était une réussite absolument incroyable dans un lieu, on en parlera tout à l'heure, mais qui est un lieu juste génial. Hélène, justement, l'association BBCA Bâtiment Bas Carbone, c'est un label.
Alors, l'association BBCA, d'abord, c'est une volonté de toutes les parties prenantes de l'immobilier pour prendre en main la question du changement climatique. L'association a été créée en 2015, juste avant la COP21, à un moment où on parlait beaucoup d'énergie. Et ça, c'est une mise au point que je voudrais faire, qui est vraiment importante dans les mots qu'on va utiliser ensemble. C'est que les émissions carbone du bâtiment, elles ont lieu non seulement pendant la phase d'exploitation due à l'énergie, et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé dans les dernières décennies. Mais on s'est rendu compte, et ça fait partie des éléments qu'on a mis en exergue dès notre création en 2015, avec nos acteurs de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, on est 140 aujourd'hui, que les émissions carbone avaient également lieu pendant la phase de construction, c'est-à-dire c'est l'investissement carbone pour à un moment donné pouvoir exploiter un bâtiment, mais également pendant la rénovation, toute action de rénovation. Et donc le carbone, désormais, pour le prendre dans sa globalité, doit être considéré pendant la phase d'usage, et c'est l'énergie, mais également pendant la phase de construction. Et ainsi, on arrive à capter toutes les émissions carbone. Les matériaux pour un bâtiment neuf, c'est plus de 60% des émissions carbone. Donc, il était urgent qu'on s'attaque à cette question, non seulement de l'énergie, mais également des matériaux. Donc, l'association BBC, on est pionnier sur ce sujet depuis 2015. Donc, on est des acteurs qui se sont pris en main, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte, aménageur, bureau d'études et d'ingénierie. Et on se donne comme objectif une division par deux de ces émissions du secteur. Et on opère effectivement un label qui a été le premier label de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie. Parce qu'en fait, quand on parle carbone, eh bien, il faut mesurer. Et toute action de construction ou d'exploitation eh bien, se mesure à l'aune des émissions carbone.
On développera, si vous voulez bien, Hélène, tous ces sujets majeurs que vous développez. Mais c'était important qu'on présente l'association pour entrer justement dans le vif du sujet. Je reprendrai bien évidemment sur ces éléments-là. Céline Crestin, vous êtes la directrice de la stratégie et du développement durable de Paris La Défense. Pour quelle raison vous vous immergez, vous vous êtes impliqué justement dans ce salon immobilier bas carbone qui reflète assez bien d'ailleurs les enjeux majeurs de la trajectoire qui tente à la neutralité carbone? On en entrera dans la deuxième partie de l'émission sur les contenus. Racontez-nous un petit peu, puis peut-être un rappel historique de ce qu'est Paris La Défense.
Oui, tout à fait. Paris La Défense, c'est l'aménageur historique du quartier d'affaires, héritier de l'EHPAD. Le quartier a été créé en 58 et l'établissement public d'aménagement de la Défense aussi. Et la particularité depuis 2018, cet établissement Paris La Défense, de rassembler les missions de gestion, d'exploitation, de sécurité et d'aménagement pour le quartier d'affaires, mais d'aménagement sur un territoire plus vaste qui totalise 600 hectares, qui a englobe toute une partie du territoire de Nanterre et de la Garenne-Colombes également. Donc, à la fois un acteur historique en charge de ce quartier qui a été pensé en 58 à une ère où le pétrole n'était pas un problème, les émissions de CO2, on savait peut-être déjà ce que c'était, mais on s'en préoccupait peu. Donc autant dire qu'on est héritier d'une réalisation qui a conçu beaucoup d'infrastructures, beaucoup de béton.
D'un urbanisme triomphant.
Exactement. C'est tout un défi que de partir de ce constat, de cet héritage qu'on ne peut nier, de voir comment le transformer. C'est un enjeu d'attractivité pour ce quartier d'affaires très important au niveau européen, mais aussi à un moment charnière de son histoire et pour incarner la dynamique économique de demain. Il est majeur et le président Siffredi, qui a pris les rênes de l'établissement en 2020, l'a tout de suite mis au cœur de ses préoccupations que d'engager cette transition vers un développement responsable.
Alors, il faut rappeler que c'est une institution publique.
Mm-hmm. Un établissement
donc,
public
qui est
local.
Géré par
des collectivités.
Élus, des collectivités mm-hmm. avec des élus locaux hein, qui sont à la tête de la gouvernance. Est-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle les classes d'actifs, c'est-à-dire vous êtes sur de la mixité d'usage et de la mixité fonctionnelle, il y a à la fois du logement, il y a à la fois du tertiaire, du commerce?
Alors, les responsabilités de l'établissement sont dans l'aménagement et la propriété des espaces publics, des infrastructures, notamment de la dalle, des voies couvertes. Et les immeubles appartiennent, pour l'essentiel, à des acteurs privés. Quand c'est des bureaux, effectivement, à des investisseurs privés. Il y a également quelques immeubles résidentiels. Il y a presque 25 000 habitants à La Défense et 52 000 sur l'ensemble du territoire. Donc, on a une action qui est coordonnée, qui, par nature, doit se coordonner avec les des propriétaires, mais on n'en a pas non plus les leviers d'action. Et je dois même dire que traditionnellement, la limite d'intervention s'arrêtait pour l'aménageur gestionnaire à cette limite d'espace public. Mais quand on a fait notre bilan carbone territorial en 2019, on s'est aperçu que la consommation de l'existence était 15% des émissions de gaz à effet de serre, et puis la construction, c'était à peu près autant. Donc, c'était 30%, ce qui fait que l'immobilier, les bâtiments représentent 45% du bilan carbone territorial, soit 45% du million de tonnes annuelles émises sur le quartier. Donc, on s'est dit, en prenant des objectifs, on pourra y revenir, de division par deux de nos émissions territoriales d'ici 2030, que même si ce n'était pas tout à fait dans nos habitudes, il était très important d'engager une collaboration et un mouvement avec les acteurs de l'immobilier, parce qu'on avait là un gisement d'économie carbone très important.
C'est la raison pour laquelle le salon l'immobilier bas carbone était tout à fait désigné.
Absolument.
Pour créer cette agora de rencontres autour de cette problématique. Merci Céline. Pierre, alors moi j'ai le plaisir de vous avoir vu quand vous avez quasiment démarré Accenta.ai, qui était une véritable révolution. AI, je rappelle, c'est intelligence artificielle.
C'est ça.
Parce que vous avez le point AI. Alors, vous étonnez pas, les amis, quand vous tapez l'URL que vous voulez chercher Accenta, vous faites point AI. Quelques mots à la fois sur les choix de la fondation d'Accenta, pour le rappeler quand même qu'à l'époque où vous l'avez créé, on vous a pris un peu pour un fou.
Pour un fou, tout à fait.
On vous a même accusé de suicide économique. Et vous avez fait
2016.
Et vous avez fait d'ailleurs une très belle levée de fonds, là récemment, vous l'avez affiché, hein, c'est public, donc je peux en parler, qui montre que le modèle économique et la réussite d'Accenta n'est plus à démontrer. Quelques mots, et aussi, pour la raison pour laquelle, et je suis ravi que Feriel et l'association BBCA vous aient invité à cette émission, justement pour parler des innovations, des esprits remarquables. C'est là qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a un incroyable talent en France.
C'est formidable d'introduire mon sujet avec...
Non, mais si vous créez un fan club, j'en prends la présidence.
formidable.
Je vous le dis tout de suite, hein. Voilà.
Alors, avant de vous parler d'intelligence artificielle, je vais vous parler de géothermie et de cette nouvelle géothermie que l'on a contribué à développer, parce qu'au fond, on se rend compte, avec la nécessité de décarboner le parc immobilier, que la géothermie est une formidable carte dans notre main pour décarboner les bâtiments et les villes.
Présentez-nous Accenta, parce qu'on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Oui. Je voulais juste, sur le plan d'entreprise.
Donc,
parce qu'après,
Accenta a développé une solution de chauffage et climatisation très bas carbone, qui permet de décarboner jusqu'à 90% le chauffage et la climatisation. Or, c'est près de 75% des émissions de CO2 en phase d'exploitation lorsque les bâtiments sont construits. Évidemment, c'est un moyen de passer vraiment une étape pour aller vers le bâtiment bas carbone.
Combien vous êtes aujourd'hui dans le groupe ?
On est 150.
Déjà.
Et on double de taille d'équipe chaque année, donc ça va très, très fort. L'année dernière, on a embauché 75 personnes, je crois. Donc,
un formidable, formidable succès. On va parler des choix, justement, que vous avez fait, des choix sociétaux, parce que ce que j'aime beaucoup dans Accenta, c'est aussi la mission que vous avez à Paris La Défense, c'est que vous vous inscrivez aussi dans une trajectoire citoyenne à l'échelle du quartier, à l'échelle du département, de notre pays, mais plus largement de la planète, parce que je ne vais pas paraphraser notre président de la République, mais il n'y a pas apparemment de planète B, donc on est tous confrontés aux mêmes problématiques, chacun selon son degré de compréhension. Voilà, c'est ce qui va inaugurer le débat, justement. On va essayer de décrypter pour vous, les amis, sur ce qui va se passer d'abord au CIPCA et vous donner envie de venir. Et d'ailleurs, si vous sortez de cette émission un peu frustré, tant mieux, ça veut dire que vous viendrez au CIPCA pour écouter au moins la centaine de prises de parole, hein, je crois plus d'une centaine de prises de parole, organisées, conférences, débats et ateliers thématiques. C'est tout de suite pour le débat.
Émission spéciale CIPCA sur Radio Imo et Radio Territoria.
La rénovation énergétique des bâtiments constitue un des leviers qui vont pour tendre vers ce qu'on appellera un modèle de développement en adéquation avec les objectifs de neutralité carbone. Elle répond à un triple enjeu: lutter contre le changement climatique, favoriser la reprise économique et faire reculer la précarité énergétique. L'Europe s'en est mêlée pour définir une trajectoire. Cette trajectoire, elle va vers la neutralité carbone, on le sait. Les objectifs qu'a pris la France dès 2015, c'est une réduction, vous l'avez rappelé, des gaz à effet de serre de 30%. à l'horizon 2030. On est quand même sur des sujets quand même importants. Je vous donne juste un chiffre pour illustrer le propos, parce que ça donne bien la tonalité de ce chantier que j'appellerais, moi, le chantier du siècle en termes de transformation, voire même d'anthropologie de la transformation urbaine. C'est 4 800 000 passoires thermiques qui ont été déjà identifiées au niveau des bâtiments. On sait qu'en 2050, plus de 80% des bâtiments qui nous entourent, ça vous le savez, sont déjà construits. On le sait. On sait que nous sommes basés aujourd'hui sur une trajectoire qu'on appelle le ZAN, hein, c'est pas les petits bonbons, les petits cachous que j'ai connus, c'est le zéro artificialisation nette. Voilà, j'arrive jamais à le dire, mais voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que grosso modo, même si la France a doublé sa surface forestière depuis les années 60, on n'étalera plus au niveau de l'urbanité. Donc on est confronté à deux sujets, pour faire un peu le tapis de notre débat. On est confronté à cette verticalité des bâtiments qui va nous obliger, finalement, à définir un espace de cohésion dans l'urbanité, avec un chiffre important. En Europe, c'est 82% de la population qui vit en urbanité, c'est-à-dire dans des centres urbains. Et en 2050, ce sera 80% de la population mondiale. Donc il n'y a pas le choix. Les bâtiments sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre et de production de carbone, bien évidemment. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui au niveau de la transformation. Quels en seront les nouveaux modes constructifs? Quels en seront aussi les choix énergétiques pour justement activer cette transformation énergétique, mais aussi trouver et développer des modèles économiques qui s'adaptent à la consommation de chacun? Parce que pour que ce soit pérenne, Pierre et vous toutes qui nous écoutez, pour trouver son modèle, il faut que ce soit pérenne sur un plan économique. C'est parfois une équation difficile à résoudre. C'est la quadrature du cercle qu'il faut essayer de définir. Voici le débat. Alors, je vais commencer par vous, Pierre, justement, sur les choix énergétiques. On voit bien que de l'urgence climatique, une prise de conscience mondiale s'est établie. Dans les années 2000-2015, entre 2010 et 2015, et d'ailleurs, l'association BBCA s'est créée en 2015, face à ce constat, nous n'avions pas une masse critique d'une population qui était convertie, entre guillemets, à cette prise de conscience. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Elle nous touche chacun, elle touche le citoyen. Quels sont aujourd'hui les principaux, j'allais dire, leviers, en essayant, si vous voulez bien, Pierre, et je vous invite à sortir des dogmes et des idéologies pour trouver des modèles qui correspondraient véritablement à ces usages qui aujourd'hui seront la norme demain.
Alors, il est sûr que dans le bâtiment, hein, comme je le disais en introduction, il faut vraiment s'intéresser à l'énergie thermique qui est source de près de 75% des émissions de CO2 en phase d'exploitation. Cette énergie thermique, par facilité, jusqu'à maintenant, n'étant pas complètement conscient de l'importance du carbone, on a déployé beaucoup d'énergie fossile et il faut maintenant s'en passer. Évidemment, on se dit tous qu'il faut aller vers l'énergie électrique, plutôt avec...
C'est la condamnation des énergies fossiles ?
Oui, oui, bien
anticipé.
Sûr. Absolument.
Clairement.
Et toutes les normes, et notamment à travers l'Europe, condamnent. Alors, il faut phaser ça dans le temps, parce que ça ne va pas se faire dans un seul Big Bang, mais il est absolument clair que si on veut atteindre notre neutralité carbone, on devra progressivement se passer des énergies fossiles. La bonne nouvelle, c'est que, en tout cas en Europe, on a une électricité qui est assez décarbonée, pas partout en Europe. Hein. Il y a des très forts contrastes entre l'électricité française, l'électricité allemande, par exemple. Pour autant, avec les moyens de production, parce qu'on ne peut pas faire l'analyse uniquement sur l'énergie en tant que telle, il faut le coupler avec les moyens de production qu'il y a derrière, eh bien, je dirais que quoi qu'il arrive, l'électricité est la stratégie d'avenir, puisque avec ce qu'on appelle des rendements thermodynamiques, avec des pompes à chaleur, les pompes à chaleur géothermiques, on va pouvoir, au fond, consommer beaucoup moins d'énergie et émettre beaucoup moins de carbone. Donc on s'oriente vers ça. Il y a d'autres énergies, comme par exemple la biomasse, même s'il y a un peu des luttes d'usage. La biomasse est intéressante parce qu'elle peut faire de manière décarbonée de la chaleur haute température. Elles sont utiles pour décarboner les réseaux de chaleur qui sont parfois nécessaires pour les villes. Mais l'électricité, elle, va être beaucoup plus scalable, entre guillemets. Des solutions à base de pompes à chaleur va pouvoir drastiquement remplacer toutes les énergies.
Alors, vous savez que vous mettez le point sur un débat, d'ailleurs, qui va beaucoup être discuté au CIPCA, hein, sur les choix énergétiques. D'accord. Alors, d'aucuns pensent que dans les choix énergétiques, on est sur un mode hybride entre, effectivement, on va dire la fin des énergies fossiles, qui n'est pas totalement aujourd'hui condamnée, pour être
bien
très
sûr,
clair,
bien sûr, bien sûr.
Parce que les énergies de substitution ne sont pas prêtes dans l'appareil industriel. Il faut aussi tenir un langage réaliste. Mais vous avez raison, à terme, d'ailleurs, on le voit bien avec la suppression des moteurs thermiques à terme dans les villes. On l'a vu d'ailleurs avec les zones à faible émission qui sont les prémices, effectivement, d'une réduction drastique des moteurs thermiques et donc des énergies fossiles. À Paris La Défense, ces sujets de choix énergétiques et d'application à l'échelle d'un territoire, surtout avec des élus qui sont confrontés à ce type de réalité, quand on vous dit, justement, quand on a cette forme à la fois d'incantation, mais qui est devenue très opérationnelle maintenant, en disant que, effectivement, à la fois à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, on a engagé ce vaste mouvement, il faut aussi que les citoyens y trouvent un intérêt en termes de pouvoir d'achat, de qualité, de confort de vie global. Ça ne va pas toujours être évident quand même à gérer.
Non, mais c'est bien Céline Christin. Le choix de essayer de concilier ces paramètres qui paraissent souvent difficiles à concilier. Le choix que nous avons fait quand nous avons engagé une démarche de raison d'être, on n'y était pas obligé en tant qu'établissement public, mais on s'est dit que faire dialoguer nos parties prenantes pour faire émerger au-delà de notre mission d'intérêt général le cœur de notre action. Nous avons fait le choix de retenir une raison d'être qui vise à expérimenter, mettre en mouvement et incarner les nouvelles méthodes de fabrique de la ville, de vie, d'exploitation et de vie dans le quartier, d'immobilier également, au service de transformation du quartier en premier quartier d'affaires post-carbone de niveau mondial. Et le post-carbone, il repose sur quatre piliers. La sortie des énergies fossiles, l'atténuation, la réduction des émissions, un développement équilibré et puis une dimension d'adaptation parce qu'on sait que le changement des règlements climatiques, il est engagé et que parmi les 80% des bâtiments qui seront là, qui sont déjà là, qui seront en 2050, il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés. Donc il y a tout cet enjeu. Et donc le post-carbone, il comprend ces quatre dimensions et cette notion de trouver l'équation économique pour que ça fonctionne cependant et que chacun trouve sa place en tant que citoyen, c'est bien un peu cette quadrature du cercle qu'on a trouvé dans cette formule de post-carbone.
C'est exactement le cœur du sujet. Parce que ce que vous dites, Céline, c'est exactement l'analyse qu'au fond tous les territoires, les interco, les EPCI et les communautés d'agglomération. Hélène, vous êtes au cœur du réacteur, on peut le dire, puisque l'association BBCA, en termes de label, en termes d'action concrète qui réunit l'écosystème, est-ce que, justement, on peut essayer de définir un cadre, dans le cadre notamment de ce qu'a défini la directive européenne pour aller vers cette fameuse neutralité carbone. Et si une neutralité carbone il y a, est-ce qu'on est dans le tempo au jour d'aujourd'hui ?
Alors, effectivement, la question, c'est le tempo et le rythme auquel on va aller vers tout ça. Alors, d'abord, avant d'effectivement, dans cette question de neutralité carbone, tous les efforts, ils vont devoir être orientés vers la réduction des émissions carbone. Chacun doit faire sa part. Et ensuite, ce qui n'aura pas pu être réduit, ben effectivement, il va falloir essayer de le compenser avec des actions de stockage. Donc, nous, on s'intéresse vraiment, on est au cœur de cette logique d'engager la profession déjà à réduire au maximum. Ce qui est extrêmement intéressant avec le carbone, c'est que ça se mesure. Ça se mesure de l'étape du projet jusqu'à la réalisation, et ce, sur toutes les échelles de la ville. Donc, avec le label que nous opérons depuis 2016, on a souhaité proposer à la profession, en fait, des outils, une méthode qui permet d'encourager les bonnes pratiques avec des plafonds d'émissions à ne pas dépasser pour justement être exemplaire. Et c'est tout l'enjeu de ce label. Donc, aujourd'hui, pour une construction neuve, une rénovation, et on a également été jusqu'au quartier et à l'exploitation, eh bien, il y a des outils pour concevoir, construire, rénover, exploiter bas carbone. On a aujourd'hui 4 labels qui donc offrent à la fois ces méthodes et également ces plafonds d'émissions.
Est-ce qu'on peut décliner ces 4 labels ?
Alors, ces quatre labels, en fait, ce sont des méthodes existantes. Une pour, effectivement, les aménageurs ou les collectivités avec le BBCA quartier. Une pour les utilisateurs ou pour les bailleurs qui est BBCA exploitation. BBCA rénovation également existe depuis 2018 et le BBCA neuf depuis 2016. Donc, finalement, avec ces outils et l'opérateur peut mesurer ses émissions sur à chaque étape en fait du cycle de vie de son bâtiment et être encouragé à réduire ses émissions. Donc l'objectif, le cap de la réduction, il est fixé, il est inhérent à ces labels. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire en tout cas en France, c'est qu'il y a une très belle dynamique de réduction. Aujourd'hui, le label BBCA, on a plus de 600 opérations qui se sont engagées en fait sur une opération neuve ou rénovation. Ça va faire quand même plus de 4 millions de mètres carrés. Donc, il y a une vraie dynamique. Et maintenant, la question, effectivement, c'est d'accélérer et que tout cela soit massifié.
Alors, justement, je vous donne un chiffre. Alors, ce chiffre n'est pas, on va dire, hyper enthousiaste, hein, si on peut dire les choses comme ça. C'est le nombre de productions de logements neufs cette année. Alors, j'ai un certain âge, donc j'ai 35 ans de métier dans l'immobilier. Je n'ai jamais connu un chiffre aussi bas, puisque nous allons produire cette année moins de 120 000 logements. C'est du jamais vu. À 180, on était à plus ou moins à l'équilibre, alors qu'il faudrait, avec ce que avait fixé la loi de transition énergétique pour une croissance verte dès 2015, une réduction des gaz à effet de serre de 40% et 30% de sa consommation d'énergie fossile dès 2030. Mais pour atteindre ce niveau de bâtiment basse consommation, il faudrait pouvoir rénover 500 000 logements par an. Et quand on sait qu'aujourd'hui, rénover des logements, c'est aussi permettre aux gens d'habiter. Et pour qu'ils puissent habiter dans de bonnes conditions financières, encore faut-il qu'on ait une production de logements neufs. Alors je reviens à ce quatrième label que vous avez pour le BBC neuf, qui est en fait à l'origine, hein, d'ailleurs, le bâtiment BBCA, au début, c'était du neuf.
Exactement.
Aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous faites justement sur la faiblesse, justement, au niveau peut-être des politiques publiques, sur la production de logements neufs? Est-ce que vous pensez, Hélène, que la production de logements neufs dans notre pays est un frein, justement, à ce vaste mouvement pour la rénovation énergétique, à la fois pour la construction, mais aussi pour la rénovation des bâtiments existants?
Alors, au niveau de la politique publique, aujourd'hui, on peut dire que les choses ont beaucoup avancé, puisque depuis début 2022, il y a une réglementation environnementale pour le bâtiment neuf qui oblige chaque nouvelle opération, chaque acteur, à faire un bilan carbone de ses émissions sur tout son cycle de vie, donc non seulement pendant la phase prévisionnelle d'utilisation, mais également sur la phase construction. Donc là, on a quelque chose qui est une belle avancée. Aujourd'hui, on est également cette réglementation, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle fixe des plafonds d'émissions à ne pas dépasser pour tous les bâtiments neufs. Donc, on a aujourd'hui des plafonds qui sont pas très, très ambitieux. Avec les objectifs BBCA et le label, on va bien entendu bien au-delà de ces ambitions, puisque cette réglementation va renforcer ses ambitions tous les 3 ans, avec des seuils qui vont évoluer. Là, on est sur 2022. On va avoir des seuils qui vont évoluer en 2025, puis 2028, puis 2031. Et donc, un bâtiment bas carbone neuf exemplaire, aujourd'hui, il est d'ores et déjà réglementation 2028. Donc, c'est pour dire qu'on peut aller bien au-delà de la réglementation.
Bien sûr.
Sur la rénovation, donc, cette bascule consistait à aller au-delà de la pure logique énergétique pour tenir compte de toutes les émissions liées à l'intégralité du cycle de vie du bâtiment, elle est actée au niveau réglementaire dans le bâtiment neuf. Là, vous m'interrogez effectivement sur la rénovation, notamment. La rénovation également, c'est très intéressant parce que quand vous faites une rénovation lourde, eh bien, la part des matériaux est très importante. Elle peut aller jusqu'à 40% des émissions.
Absolument.
Donc, le débat énergétique qui doit aujourd'hui se transformer en termes de rénovation pour aller vers la rénovation bas carbone qui va chercher à réduire les émissions carbone de la phase d'exploitation, comme Pierre Trémolière en parlait par exemple avec des modes énergétiques qui sont bas carbone, des réductions des usages aussi. faire en sorte que l'existant soit considéré comme une base, une banque de ressources, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de démolir, il faut déjà considérer que le bâtiment existant, eh bien, les matériaux ont déjà émis, donc ça vaut le coup de se poser la question de comment on peut le transformer pour éviter de démolir et de reconstruire.
Oui, transformer, puis, recycler éventuellement. On parle de recyclage
exactement.
Urbain.
Exactement. Alors, et donc, ça veut dire que la rénovation, comme vous le citiez tout à l'heure, on va de plus en plus aller vers de la rénovation. Cependant, aujourd'hui, et vous citiez les chiffres, la conjoncture de ces deux dernières années est absolument terrible au niveau du logement.
Ah, oui.
Il faut continuer à construire, il faut rénover, mais il faut aussi construire du logement neuf. On peut pas rester simplement sur le stock que nous avons, mais l'ambition doit être de faire du logement neuf ou rénové bas carbone.
Absolument.
Et c'est ce que l'on souhaite encourager.
On va d'ailleurs aborder tout à l'heure aussi les modes constructifs, justement, notamment sur la filière bois et la possibilité d'avoir, parce que aussi dans le choix des matériaux, il y a aussi les nouvelles formules de béton bas carbone qui s'inscrivent. Hein. Plus de 250 formules bas carbone quand même, hein, en béton. Ça casse un peu le mythe, hein, du tout béton, on dit le béton, etc. Aujourd'hui, le béton est loin d'être condamné. On est plus, et je reprends les termes de Véronique Bédague, la présidente du groupe Nexity, qui dit qu'on est dans un choix opportun, hybride, de choix de matériaux selon les cas qui nous sont proposés. Feriel, à l'occasion de ce CIPCA, beaucoup d'expériences vont être développées. Je suis frappé à la fois par le choix des ateliers sur les orientations énergétiques, de solutions bas carbone. On va dire que l'innovation, c'est presque l'artère fémorale du CIPCA. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très développé. C'est un choix que vous avez identifié, de donner justement un caractère à cette émulation incroyable.
Oui, 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 bien entendu, c'est un choix. Vous parliez de bois, vous parliez de béton bas carbone, vous parlez de tout type de solutions.
Ils sont tous
liés au bâtiment. Tout le monde est présent, c'est donner rendez-vous. Et puis, on a fait en sorte aussi que voilà, toutes ces solutions soient assez variées, mais ce ne sera pas de la présentation de solutions. Toutes ces solutions sont présentées dans un contexte, dans un cadre de retour d'expérience. Hélène le disait tout à l'heure, on est vraiment sur des choses très concrètes, mesurables. On parle d'Accenta et de réalisation aujourd'hui, en tout cas de la géothermie et des solutions qu'ils nous présenteront, tout ça est vraiment dans le contexte d'un panel avec des maîtres d'ouvrage, voilà, aux côtés des uns et des autres. On a voulu, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 120 conférences et grands débats.
Oui, plus de 120.
Sur ce CIPCA, c'est impressionnant et on remercie tous nos partenaires aussi d'avoir joué le jeu parce que nous voulions avoir vraiment que cette vitrine soit révélatrice de toutes vos initiatives, qu'il s'agisse des aménageurs, des territoires, des élus qui prendront la parole, des solutions, des promoteurs immobiliers, des constructeurs qui réfléchissent aussi aujourd'hui ou qui sont déjà depuis quelques années dans de nouveaux modes constructifs. Vous parliez de logement tout à l'heure. Je suis une convaincue du bien-être social et je voudrais qu'il y ait un logement pour tous. Donc oui, il y a beaucoup de logements qui ne sortent pas, de programmes de logement neuf qui ne sortent pas aujourd'hui, malgré ce besoin.
Absolument. C'est une catastrophe sociale annoncée.
C'est une catastrophe sociale et je suis très heureuse. Alors, je peux pas rentrer trop dans le détail, mais on aura l'occasion de découvrir à l'initiative d'acteurs privés qui ont réussi à lever des fonds, qui travaillent main dans la main avec les acteurs publics pour s'adapter à leurs besoins, pour répondre à ces demandes. On découvrira de nouveaux types de logements, qu'il s'agisse de logements étudiants, modulaires, déplaçables, de logements dédiés, des minorités aussi sociales. Enfin, vraiment, on aura un panel de choses incroyables et tout ça montre à quel point chacun met de l'enthousiasme, de l'envie, et je les remercie tous, je vous remercie tous d'être présents sur le CIPCA, mais c'est vrai que ce sera un programme
très riche. Une centaine de conférences, ateliers thématiques, plus de 120 exposants, vous étiez quasiment 7000 l'an dernier à venir. C'est une véritable révolution. Il y a une chose, et sur laquelle je vous le dis, et je vous applaudis, l'association, c'est que vous avez décloisonné les univers, Feriel. vous les avez fait se rencontrer. Vous avez créé une agora numérique et physique. Vous avez fait finalement du figital en créant véritablement ce type de réunion. Ça n'existait pas. D'ailleurs, maintenant, on vous emboîte le pas, c'est normal. Vous avez été précurseur. Vous avez beaucoup d'opérations qui sont en cours, ce qui est aussi très important. Et je voulais, les amis, vous regarder sur le site internet du CIPCA. Vous avez des retours d'expérience mesurables, concrètes, efficace justement, je me tourne vers vous chez Accenta, à la fois une réussite, une successful en termes de business, parce qu'il faut qu'il y ait du business, et on n'est jamais plus crédible que quand on fait du profit pour pouvoir justement aller et répondre aux besoins des citoyens, c'est justement les enjeux économiques et financiers, Pierre, on le sait. On le sait.
Alors, ils sont tout à fait majeurs. Alors, et c'est tout
la géothermie, c'est un vrai sujet. On parle de méthanisation dans les zones urbaines, plus ou moins rurales, puisque la méthanisation s'opère toujours avec du maraîchage, des agriculteurs à proximité. On peut fournir aussi, par exemple, je prends l'exemple de la B103, qui est devenue aujourd'hui la surface logistique la plus importante en France, avec 5 millions de mètres carrés et 120 000 mètres carrés de surface plane pour les panneaux photovoltaïques qui fournissent de l'électricité à 30 000 foyers. Voilà. Concrètement, Pierre, est-ce que économiquement, on y est ?
Alors, c'est vrai qu'en tout cas, c'est l'enjeu. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Malheureusement, on est dans un moment où il y a un peu une panne de la construction. Mais il faut absolument que la profession, et pour les besoins de la transition, on s'intéresse tous à la rénovation. Et pour que la rénovation du parc immobilier français soit massifiée, il faut que collectivement nous proposions une équation économique digeste pour les acteurs qui doivent rénover leur parc.
Ça ne peut pas être autrement.
Sinon, ça n'aura pas lieu.
Mais non. Voilà. Mais non.
Et donc, on
parle de pouvoir d'achat.
On doit être
voilà, in fine, on a des utilisateurs.
Voilà. Et si le succès d'Accenta peut un peu s'expliquer, ça vient de là. C'est-à-dire notre programme de recherche qui a abouti à cette nouvelle géothermie qu'est le géostockage, on a été obsédé par sa compétitivité par rapport aux énergies fossiles. Parce que si on ne propose pas aux propriétaires immobiliers, aux foncières et aux individus des solutions qui peuvent se substituer sans que ce soit complètement indigeste économiquement, alors malheureusement, ça n'aura pas lieu. Et pour l'instant, on ne va pas se raconter d'histoire, l'équation économique de la rénovation, elle est difficile. Alors c'est pour ça qu'on s'est mis à fond derrière la géothermie, parce qu'on voit derrière la géothermie un petit peu boostée par la technologie, on voit que c'est une brique, parmi d'autres, mais une brique qui a son modèle économique et qui est rentable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous investissez, au fond, vous allez dans une solution de géothermie, vous allez tellement diminuer votre consommation énergétique que vous allez consommer moins, votre facture d'énergie va être beaucoup plus basse. Et donc, vous allez rembourser très vite votre investissement et après, vous serez gagnant. Alors, tout le monde ne peut pas se payer cet investissement, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Mais là, il y a des nouveaux modèles extrêmement vertueux et Accenta s'investit là-dessus.
Par exemple,
où on investit à la place de nos clients sur les chaufferies et climatisations.
En fait, vous pilotez carbone. Les centrales pour le compte de tiers.
Exactement. Et au fond, on va revendre de l'énergie décarbonée.
Comme les loyers que reversent les opérateurs en panneaux photovoltaïques aux propriétés foncières en disant
exactement.
Je ne sais pas piloter,
exactement.
J'ai 120 000 mètres carrés de surface, mais ça peut être le cas d'ailleurs, on peut prendre les cas des aménageurs publics et des collectivités locales qui mettent à disposition, parce que soyons très clairs, de l'argent, il n'y en a pas.
Non mais exactement.
J'ai regardé les nouvelles aides au logement qui ont été réindexées, vous les avez vues ? C'est juste extraordinaire. Je pense que Hélène, vous connaissez bien le sujet. Je vous donne 2 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments privés avec MaPrimeRénov, 4 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments publics, écoles, universités, bâtiments administratifs, 500 millions d'euros pour la rénovation du parc locatif social, 200 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments tertiaires et des TPE, très petites entreprises, et des PME, petites et moyennes entreprises. Hélène, quand vous savez que les premières statistiques d'évaluation entre 2015 et 2020 avaient chiffré la transformation énergétique dans le pays à 110 milliards d'euros, voilà, on est d'accord ?
On est d'accord, mais il
donc vous, ce que vous dites, parce qu'il, c'est qu'il faut industrialiser pour que ce soit.
Qui s'auto-finance par les économies que l'on génère. Tout ne sera pas autofinancé, nous on est capable de le faire.
Est-ce que vous êtes capable de proposer un modèle économique qui est équivalent au, à celui des coûts habituels, que ce soit du fioul maintenant qui est condamné, mais, ou du gaz? Hein, parce que moi, j'ai l'âge aussi d'avoir connu pendant une époque où on construisait tout au gaz.
Hein. Bien sûr, bien
voilà,
sûr.
C'était neuf au gaz. Des années 2000. Hein.
Alors, si c'était vous voulez, ça, dépend, ans, hein. ça voilà. dépend de nos clients. C'est-à-dire, en fait, on va faire effectivement des réponses qui sont des patchwork en fonction du contexte de l'habitat, de l'immeuble, du contexte de la localisation et aussi de la volonté du propriétaire du bâtiment. Et donc, on est capable soit de faire quelque chose d'équilibré, compétitif par rapport aux énergies fossiles, on investit à la place de notre client et on se substitue au fond à l'énergie, tiens, on va revendre des calories frigorifiées décarbonées, soit on est capable de monter la décarbonation, parce qu'on a quelqu'un qui veut vraiment qualifier son bâtiment très bas carbone, ou monter la baisse de l'énergie. Bref, on va régler les investissements en fonction de ce que veut le propriétaire immobilier ou le propriétaire d'un parc
immobilier.
Est-ce
qu'il y a une hétérogénéité, Pierre, selon la nature du bâtiment ?
Absolument. Il n'y a pas une réponse. C'est là où, d'ailleurs, nos intelligences artificielles nous aident à scientifiquement répondre à quelle est la stratégie la plus efficace en termes d'euros investis pour la rénovation de ce bâtiment. Évidemment que si vous avez des huisseries qui sont une catastrophe, il faut les changer. Mais par contre, vous pouvez insister sur telle ou telle autre partie. Évidemment, il faut aussi conduire les installations. Juste régler les bâtiments fait énormément de gains énergie et carbone. Donc vous voyez, il y a 1000 leviers sur lesquels jouer pour faire, pas tout le chemin vers le bas carbone, mais une très grande partie du chemin vers
Paris La Défense veut être exemplaire en la matière. Donc vous avez aujourd'hui des solutions disponibles. Or, vous êtes une institution publique. Une institution qui est dotée d'un certain nombre de moyens, mais ne pouvez pas inventer ce qui n'existe pas, hein, si on peut dire les choses comme celle-ci, alors même où vous êtes piloté par des collectivités locales.
Je dirais qu'on a trois...
Dont certaines ont vu fondre leur dotation de 40%.
Oui. Hein, oui.
Parmi votre gouvernance, j'en connais certains qui se sont bien exprimés sur le sujet, si on peut dire les choses comme ça, et même en restant poli, on peut dire les choses comme elles sont. Je ne vais pas revenir sur la taxe d'habitation, etc. Mais justement... Comment, Céline, vous envisagez les choses justement à l'aide justement des cohésions et des partenariats publics-privés, puisque là, du coup, ça prend tout son sens, pour justement accompagner ce vaste mouvement et votre ambition?
Tout à fait. Sur l'enjeu de la transformation et de la rénovation énergétique, à La Défense, il y a une problématique similaire, avec une dominante de bureaux, mais on a 900 000 m² qui sont à risque d'obsolescence, parce que pas d'intervention, parfois, depuis 2012, donc avant les RT 2012, etc. Donc des bâtiments qui vont...
Ils sont occupés ou ils sont vides aujourd'hui?
C'est variable. Il y a D'accord. des bâtiments qui sont vides, D'accord. d'autres qui vont le devenir, parce que aujourd'hui, il y a une compétition et des bâtiments,
les chiffres de la vacance locative de Paris La Défense sont...
Des chiffres, des bâtiments qui sont aussi extrêmement livrés récemment, qui sont très attractifs et très performants. Le concours d'économie d'énergie qu'on fait à La Défense avec l'IFPEB montre de très bons résultats. On peut vraiment s'améliorer avec des actions assez simples. En tout cas, sur la transformation, on a mis en place une initiative qui a fédéré l'écosystème immobilier, les états généraux de la transformation des tours qui sont déroulés jusqu'à cet été, qui a mis en exergue les leviers d'action avec l'idée de trouver aussi les aberrations fiscales, par exemple, sur la transformation bas carbone. Aujourd'hui, on a constaté, sur la profession, nous ont bien indiqué qu'il était plus intéressant pour atteindre un certain champ fiscal, et notamment des droits de mutation bas, de jeter les cloisons, les toilettes, etc., pour bénéficier de cette exonération. Mais tous ces éléments, en fait, le budget qui correspond au remplacement de tous ces éléments qui sont pas obsolètes, qui peuvent rester en place, était mis sur des systèmes vertueux en termes d'énergie ou du réemploi ou des matériaux bas carbone, on aurait une fiscalité qui oriente vers une performance bas carbone. Donc c'est ce genre d'initiatives et de petites actions très concrètes qu'on a fait émerger. On en a proposé 10, des choses qui sont à notre niveau qu'on va pouvoir mettre en place, d'autres sur lesquelles il y a du travail à faire avec les acteurs de l'immobilier, et vraiment une dynamique très intéressante. intéressante. Ça, c'est un premier type d'action qu'on peut mener, public-privé. Sur le logement, je voulais indiquer que en tant qu'aménageur, intervenant aussi sur un secteur avec quelques réserves foncières, on est vraiment acteur de la production de logements. Il y a 4000 logements qui sont prévus dans les GROU.
Et d'ailleurs, la mixité d'usage aujourd'hui à la Défense, ça redevient une norme, quelque chose d'important.
Oui, tout à fait, c'est un axe important.
Il fut une époque, à l'époque de Christian Pellerin et de tous les grands faiseurs emblématiques, Sarri, Siri, on était véritablement sur du cloisonnement en usage qui était très ciblé. Et la Défense a été un exemple.
Les attentes ont évolué et on est vraiment...
Et aujourd'hui, on est vraiment... Et d'ailleurs, l'attente même des usagers, on le sait.
C'est sûr. Et quand on parle d'énergie ou de transformation, cette mixité, elle est aussi favorable. Par exemple, le raccordement et le développement du quartier à l'immédiate proximité de la Défense des GROU, les 4000 logements, c'est aussi ce qui a permis de faire levier sur le réseau de chaleur de la Défense et de passer d'un réseau de chaleur qui était, je dirais, à 30% d'énergie renouvelable, donc 70% surtout carboné, de passer à 60%. Avec des agropelés amenés par train, une innovation européenne qui sont des résidus agricoles en fait dans un rayon assez proche qui permet par l'effet levier certes pour le nouveau quartier d'atteindre des niveaux label BBCA quartier, on pourra en parler Hélène, mais aussi d'améliorer le bilan énergétique et donc l'empreinte carbone de tout le quartier de la Défense. Donc on a cette capacité là d'action.
Hélène, il y a un sujet que vous avez en liminaire développé, qui est celle de la labellisation. Vous savez, la labellisation, les quatre labels que vous avez développés, que je trouve assez ingénieux, exploitation, quartier, rénovation et neuf, qui sont les règles communément admises sur à la fois le comptage énergétique, qui est un vrai sujet, parce que les unités de comptage, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, je crois que c'est BNP Paribas Real Estate qui a créé l'alliance numérique pour la convergence numérique, dans le but, finalement, d'avoir une unicité de règles de comptage pour pouvoir le faire. Est-ce que, justement, aujourd'hui, BBCA, l'association bâtiment bas carbone, n'a-t-elle pas un rôle central à jouer pour devenir une norme communément admise pour que chaque opérateur, exploitant, foncière, promoteur, puisse effectivement être sur la même trajectoire? Est-ce que nous y sommes?
Alors, on y est. Nous, ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur ce sujet. Donc, en 2015, il faut bien savoir qu'au niveau du carbone, rien n'existait. On ne savait même pas comment mesurer l'empreinte carbone d'un bâtiment.
Ah, c'est clair.
Donc, il faut voir qu'en 8 ans, on a quand même on a bien avancé. Et le rôle de l'association, en fait, c'est vraiment d'être pionnier sur ces sujets-là. On réunit des sachants, des experts, pour travailler ensemble et structurer des règles, des méthodes pour comprendre, donner les clés du bâtiment bas carbone et, comme je vous l'indiquais, fixer des objectifs quantitatifs à ne pas dépasser, qui sont mis à jour régulièrement. Par exemple, sur le bâtiment neuf, le référentiel, la méthode date de 2016, on en est à la cinquième mise à jour. On capitalise avec l'expérience. Voilà. Donc, sur le neuf, vraiment impulser la prise en compte du carbone dans la réglementation. Les travaux que l'on avait faits dès 2016, en fait, ont été repris dans ce qui est devenu l'expérimentation Le Plus C'est Moins, puis la réglementation environnementale pour le bâtiment neuf, la RE 2020. Les travaux qu'on a menés dès 2018 aujourd'hui pour la rénovation restent inégalés. BBCA Rénovation est le seul label qui permet effectivement de donner les clés et de donner des objectifs quantitatifs. Et c'est ce que nous avons fait aussi sur l'exploitation
toute classe d'actifs
et le quartier.
Pardonnez-moi Hélène, toute classe d'actifs confondue, on est d'accord?
Aujourd'hui, alors, on est sur le résidentiel collectif. Suivant le référentiel, le label donné, on est sur du résidentiel collectif, du bureau, des bâtiments publics. Essentiellement, et puis évidemment à l'échelle du quartier, là on englobe toute la panoplie de sujets. Donc ce qu'on a fait à l'échelle du quartier ou de l'exploitation, qui est en passe de devenir un label, la méthode existe, le label sera lancé d'ici la fin de l'année, c'est de la même manière d'encourager les aménageurs à se challenger, à faire cette mesure, et ensuite après à se challenger sur les choix, les pratiques qui sont mises en œuvre pour essayer de réduire au maximum les choses. Donc, nous, ce qu'on met, on met quelque chose sur étagère pour que la profession s'en saisisse. On est reconnu d'intérêt général, donc ça signifie qu'on est reconnu comme ayant un rôle et une action réelle sur l'environnement et la question du climat. Et tout ce qu'on espère, évidemment, c'est que les acteurs, le marché se saisissent de ces outils.
Bien sûr.
Qui ont notamment la caution du CSTB, puisqu'on a mis au point BBCA Quartier avec eux, d'autres bureaux d'études également qui ont travaillé autour de cela. Donc, on est éclaireur de ces sujets en toute agilité. Et l'objectif, eh bien, c'est, Céline en parlait tout à l'heure, hein, c'est que des quartiers comme Paris La Défense, eh bien, déploient soit parmi les premières opérations qui vont être exemplaires. Et ça, eh bien, à terme, l'enjeu, effectivement, c'est que la réglementation s'en empare.
Alors, Hélène.
Mais la difficulté avec la réglementation, c'est qu'il faut faire des choses qui valent pour tout le monde.
Alors,
avec BBCA, on est avec des pionniers. Voilà,
alors, justement, vous mettez aussi le point sur le sujet majeur, qui est celui de l'adoption. Adoption, c'est-à-dire qu'on peut pondre n'importe quelle méthode ou n'importe quelle loi ou directive, si elle n'est pas adoptée par ceux qui la mettent en pratique. Ça sert à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez parmi les adhérents de BBCA, puisque vous avez toute la planète immobilière qui est adhérente à votre label, que vous avez véritablement des populations qui ont adopté, des opérateurs. Je parle des property managers, je parle des asset managers, je parle des foncières, des exploitants, des agents immobiliers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un vrai mouvement au sein de l'association qui adopte la règle ?
Alors, je pense qu'on est reconnu depuis 8 ans comme une association sérieuse, dont les outils s'appuient sur des recherches scientifiques et en même temps très pragmatique. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à engager des bonnes pratiques qui ont un effet immédiat et ne pas aller chercher après la virgule. Donc, vraiment d'orienter et d'ordonner les efforts qui doivent être faits. C'est tout notre enjeu. Sur les différents segments, on a effectivement tout type d'acteurs membres de l'association BBCA, comme vous l'indiquiez, donc des aménageurs, des constructeurs, des promoteurs. Sur la question de l'usage, BBC Exploitation, c'est des recherches qu'on a menées l'année dernière et qu'on a publiées. Donc, c'est sûr que le côté utilisateur est aujourd'hui, sera très à l'affût, je pense, des premiers retours d'expérience qu'on va faire lors du CIPCA, qui seront présentés le vendredi aux alentours de 11h ou midi, je ne sais plus, mais on trouvera ça sur le planning. Des premiers retours d'expérience, en fait, d'exploitation bas carbone, qui ont été expérimentés par plus d'une dizaine en fait d'acteurs qui se sont engagés volontairement dans cette démarche. C'est la même chose également sur le quartier. On aura également des premiers retours d'expérience sur ces quartiers bas carbone.
Et qu'on pourra d'ailleurs concrètement visualiser lors du salon. On est d'accord ?
Oui.
Absolument.
Alors, Hélène, on va juste, voilà, il nous reste 3-4 minutes, juste pour conclure, je voudrais aussi aborder le sujet qui sera développé, les amis. Vous avez bien compris que l'idée, c'était de vous donner un aperçu global de ce que vous allez y trouver pendant ces 2 jours. Je rappelle que c'est du 20 au 22 septembre au Palais Éphémère à Paris. Sur les modes constructifs, on parle des choix des matériaux, on parle beaucoup de filière bois et on parle aussi de construction hors site. On va évoquer la solution de construction hors site. Est-ce que, juste un mot, est-ce que vous pensez que la construction hors site, qu'on essaye aujourd'hui de promouvoir comme étant la solution, la martingale, pour réduire à la fois les nuisances sonores, mais aussi l'empreinte carbone, peut être une solution. Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Céline ?
Oui, je pense que dans cette phase, les solutions qui optimisent, qui rationalisent et qui permettent aussi de limiter les impacts chantiers, les nuisances, sont des leviers de réduction d'émissions. Et je voudrais dire, en rebond sur ce que disait Hélène, que on sent une vraie dynamique. On a fait une consultation qu'on a appelée Empreinte, qui a mis des objectifs qui dépassent largement les obligations réglementaires, et on a eu beaucoup de répondants. Et notre conférence du 21 septembre à 10h30 sera l'occasion de révéler un des lauréats, un des premiers lauréats de cette démarche sur le salon du CIPCA. Je ne peux pas en dire plus, mais ça fait écho avec, avec la question
que vous avez posée. Et nous y serons, puisque nous avons un plateau. grâce à Feriel de Riche, vous nous laissez la possibilité de couvrir votre événement. On en est ravis, justement, pour promouvoir ce type d'action et vous donner l'exclusivité. La construction hors site, on voit par exemple le groupe Nexity qui lance une opération très importante en disant voilà, est-ce que vous, Pierre, vous avez un avis sur cette question-là ? Et est-ce que, effectivement, lorsque aujourd'hui on fait l'apologie de la filière bois, dont on a du mal parfois, pour dire la vérité, à saisir la construction de la filière ? Est-ce qu'elle est mature ? Alors, elle a démarré à quasi zéro il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'aujourd'hui on a atteint un niveau industriel tel qu'on peut envisager un mode hybride entre les choix de matériaux, les modes constructifs et la construction hors site ?
Je vais plutôt laisser
Feriel
répondre sur la construction hors site, sachant que je peux quand même dire que d'un point de vue industriel, pour les chaufferies bas carbone, ça a un sens.
C'est clair.
C'est-à-dire que, clairement, industrialiser les réponses permettent de baisser leurs coûts, de penser leur empreinte carbone et de systématiser...
C'est vrai que c'est compatible avec la philosophie que vous avez développée, bien évidemment. Feriel, peut-être sur le... Les acteurs qui font...
Je rejoins Céline sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toute action menée aujourd'hui et qui est bonne pour l'environnement, et c'est le cas de la construction hors site, en tout cas, quand elle est bien réfléchie, bien pensée, elle ne peut être que valorisée, être mise en avant sur le CIPCA. Vous parliez de Nexity, mais il y a de nombreux autres acteurs engagés, des nouveaux modes constructifs, l'industrialisation, moi je vois des choses arriver de régions et puis aujourd'hui des usines aussi qui s'installent en région parisienne, un petit peu partout. Ça prouve bien que c'est un nouveau mode constructif en tout cas qui marche, qui fonctionne. On aura, on sera très bien mis en avant et en valeur sur le CIPCA, encore une fois avec des présentations. Et on parlait aussi des utilisateurs tout à l'heure et des usages. Je rebondis juste sur la conférence dont parlait en clôture Hélène. Je crois que avant tout, c'est surtout l'utilisateur qui doit nous faire un retour.
Bien sûr.
Et qui mesure vraiment l'impact. Je vais pas parler que de que au niveau économique et financier, mais en tout cas, les charges lui reviennent.
L'habitant était extrêmement important et doit être mis au centre, absolument.
Voilà, et on aura, parce que ce que disait Pierre, pardon, tout à l'heure, je suis peut-être un peu sortie du sujet, mais je tenais à le dire, ce que disait Pierre tout à l'heure, c'était pas de l'autopromotion sur Accenta, c'est que vraiment, nous, on aura des investisseurs et on aura des utilisateurs sur notre programme de conférence qui viendront nous dire pourquoi est-ce qu'ils croient aujourd'hui à la fois à ces nouveaux modes constructifs dont on vient de parler, mais également aux solutions comme la géothermie, celle qu'Accenta viendra présenter et mettre en avant. Donc c'est...
Aussi beaucoup d'élus. Il est temps de nous quitter, mais on va passer à la dernière partie sur la conclusion, justement, en quelques minutes. Les amis, je vous rappelle que le podcast peut être récupéré sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien, Deezer, Spotify, Free, Orange. Vous pouvez l'avoir sur l'application, c'est gratuit, de Radio Imo. Vous l'indexez sur l'Android Store ou sur l'Apple Store. Et on pouvait aussi nous écrire directement et avoir des éléments. Et vous avez le lien, le lien du CIPCA. S'inscrit sur le podcast, il est dessous. Vous cliquez et vous avez la possibilité de vous inscrire encore, Feriel. On peut s'inscrire.
Tout à fait. Vous pouvez toujours vous inscrire. Il y aura de la place pour tout le monde.
Voilà.
Et on vous attend très nombreux.
Ravis de vous accueillir. Voilà. Dernière partie, c'est la conclusion.
Émission spéciale CIPCA sur Radio Imo et Radio Territoria.
Pour conclure cette émission, on va donner quelques éléments pratiques. Ça a lieu au Palais éphémère du 20 septembre au 22 septembre. Le Palais éphémère, c'est un choix magique. On a station de métro, on a bus, on a parking. C'est hyper pratique. Toutes les infos sont Feriel sur le site internet.
Sur le site internet du CIPCA. Alors, c'est le grand Palais éphémère. Vous voyez plus grand le CIPCA que le palais qui nous accueille, mais c'est le grand palais éphémère. Oui, un lieu magnifique, iconique et qui est extrêmement bien desservi. Champ de Mars, Tour Eiffel d'un côté et comme militaire.
Je vais vous dire, c'est totémique même. Vous avez fait un choix, c'est hyper malin. Alors, bon, je vous demande pas où ça sera l'année prochaine. Mais parce que quand qui dit palais éphémère, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, le lieu va peut-être se transformer ou
la tour voilà. Eiffel est encore là.
Voilà.
Elle devait l'être aussi.
ça c'est pas mal. Donc ça c'est pour donc le site, les inscriptions. Vous avez la possibilité aussi pour les jeunes talents d'avoir des prix réduits sur les passes, je crois aussi.
Mais les entrées sont même gratuites pour les étudiants et pour les personnes en recherche d'emploi. Toutes les initiatives que nous menons tous ensemble font qu'aujourd'hui, et dans cette transformation de l'immobilier, il y a aussi plein de nouveaux métiers qui émergent, qu'on est à la recherche de talents, on embauche, on veut des passionnés, donc oui.
Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a que de l'inclusion au CIPCA.
Ce sera le vendredi.
Je vous propose, les amis, de conclure cette émission. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et un grand merci à Hélène Genin d'avoir pris comme ça un peu à la volée en duplex depuis son bureau. Merci encore une fois. Je vais vous proposer un jeu. Est-ce que vous êtes d'accord? Un petit jeu pour conclure sur une note sympathique et une note résolument constructive. Vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Je vais vous demander très spontanément de choisir chacun un adjectif pour illustrer à la fois nos propos et les actions que vous menez, à la fois au sein du CIPCA, mais aussi pour la transition énergétique. Je vais commencer par vous, Hélène Genin.
Ouais, moi, je vais un petit peu biaiser, je vais donner un nom, accélérer, un verbe en l'occurrence.
Voilà, accélérer ou accélération. Accélérer, ça veut bien dire
accélération.
D'ailleurs. Vous savez quoi? Accélérer, ça vous va bien, Hélène. Je pense que, parce que je peux vous dire que quand je vous écoute, j'ai absolument tout compris. Et je peux vous dire que quand on parle de rénovation énergétique, c'est pas toujours évident pour l'usager, croyez-moi. Et donc, je trouve que c'est surtout ne changez rien. Voilà, accélérer pour Hélène Genin. Céline Crestin.
Je vais continuer la phrase qu'a démarré Hélène en disant la transformation. Accélérer la transformation, ça me paraît être un bon programme.
La transformation pour Céline Crestin. Pour Feriel.
Allez, transformation, accélération, action. Alors. Pour celles et ceux qui sont déjà dans l'acte de transformer, de faire en sorte qu'on accélère encore les choses.
Pierre Trémolière.
Et je vais conclure par enthousiasmant ou enthousiasmante. Cette révolution en cours qui s'accélère est enthousiasmante.
Afin qu'il y ait des accélérations qui opèrent de véritables transformations, encore faut-il que toutes les actions soient résolument enthousiasmantes et enthousiasmantes. Je vous donne rendez-vous du 20 septembre au 22 septembre au Palais éphémère, au CIPCA, sur le site, avec grand plaisir. Radio Imo, Radio Territoria couvrira cet événement. Je voudrais remercier très chaleureusement Pierre Trémolière d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Accenta.ai. Il faut aller sur ce site, il faut en faire la promotion. Merci pour l'énergie que vous y mettez et aussi l'humanité que vous y mettez. Parce qu'il y a une chose qui transpire chez vous, Pierre, c'est l'humilité, donc ne changez rien. Merci encore une fois pour votre participation. Un grand merci enfin à Céline Crestin, merci, directrice de la stratégie et du développement durable à Paris La Défense, un chantier magique. D'ailleurs, nous allons certainement transporter nos caméras, nos studios pour venir voir concrètement les œuvres que vous mettez au quotidien pour le bien des usagers. Merci encore pour
avec
votre
plaisir
présence.
Pour vous montrer tout
ça. Merci et enfin, et un triomphe pour Hélène Genin, déléguée générale de l'association BBCA. Merci Hélène, vous êtes la bienvenue sur Radio Imo. On va vous suivre bien évidemment sur les ateliers que vous allez mener demain de chef justement au CIPCA et on ne peut pas le dévoiler maintenant, les lauréats bien évidemment, mais ils seront bien sûr bienvenus, n'est-ce pas Feriel, sur le plateau de Radio Imo et enfin Feriel de Riche, la directrice du CIPCA. Merci pour l'accueil que vous nous avez fait, merci de nous laisser la possibilité de couvrir votre événement pour le public et le grand public. Quelques mots sympathiques à nos amis Baptiste, Théo et toutes les équipes Jason à la technique qui ont fait un boulot remarquable pour la construction de l'émission également. Audrey Keta, qui nous écoute certainement, directrice de la communication du CIPCA. N'oubliez pas, la transformation énergétique des bâtiments, c'est un sujet qui nous touche tous. C'est une solution à la fois pour notre confort de vie, mais aussi de vie tout court. Je vous rappelle juste qu'en mai 2020, il y a deux endroits sur Terre dans lesquels la vie humaine a été impropre. C'était dans le sud du Pakistan et en Arabie Saoudite, où le rapport entre l'humidité et la chaleur était tel que les organismes humains ne pouvaient pas survivre. Ça a duré 3 heures. Donc on sait très concrètement que la rénovation énergétique, au-delà des notions financières, elle nous touche toutes et tous. Tous ensemble, nous réussirons pour avoir ce millénaire de façon résolue, apaisée, harmonieuse, dans une ville où on a tous envie de vivre les uns à côté des autres, malgré nos différences, en les acceptant au quotidien. Je suis ravi d'avoir participé avec vous à cette émission et je vous donne rendez-vous Voilà, au CIPCA, au Palais Éphémère, ce sera à partir du 20 septembre.
Émission spéciale CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, à réécouter sur Radio Immo, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.